Chapitre 36. Le soleil inondait depuis longtemps l'atelier quand des bruits de voix éveillèrent Jean-Noël. Ils lui parurent joyeux. Il entendit même prononcer son nom. On parlait de clés, de concierge. Des coups retentissaient contre la porte. Il courut ouvrir. C'était Annie, mais elle n'était pas seule. Madame Mourier l'accompagnait. « Qu'est-ce que tu faisais ? » demanda-t-elle. « Il y a déjà un moment que nous frappons. Tu ne nous entendais pas ?»« J'étais en train de dormir. Je t'ai attendu toute la nuit. »« Entrez, entrez !» dit Annie à Madame Mourier, dont l'attitude était pleine de cette réserve que l'on remarque chez les gens que l'on invite chez soi, sans très bien les connaître, après une fête par exemple. « Je ne vous dérange pas ?» demanda Laure, qui faisait preuve d'une excessive discrétion, puisque Madame Ettlinger avait passé la nuit chez elle. La veille, peu après le départ de son beau-fils, Annie avait reçu cette lettre dont Madame Mercier avait parlé à Jean-Noël et dans laquelle, sur un ton officiel, Émile annonçait qu'il se rendrait le lendemain matin avec sa mère, rue Boissonnade. Madame Ettlinger était entrée dans une grande colère. Un instant, elle avait songé à disparaître sur le champ, à fermer son atelier, à ne plus donner signe de vie à personne. Puis elle avait pensé qu'il était vraiment trop bête, qu'elle compliquât son existence pour des gens dont, après tout, elle se moquait. Elle avait alors réfléchi sur la ligne de conduite qui lui convenait d'adopter. Elle s'était souvenue de Laure. Cette femme n'était-elle pas la complaisance même ? Ne s'était-elle pas offerte à différentes reprises à lui rendre les services qu'elle désirerait ? Ne lui avait-elle pas même laissé entendre que si jamais elle avait besoin d'un appui en des circonstances délicates, elle se ferait un plaisir de le lui donner ? Sans attendre le retour de son beau-fils, elle s'était donc rendue aussitôt à Venuniel. Elle ne l'avait pas regretté. À peine eut-elle mis Laure au courant de ce qui se passait que celle-ci lui avait dit « Vous allez me faire le grand plaisir, madame, d'accepter mon hospitalité cette nuit. Demain matin, je vous accompagnerai et vous me laisserez recevoir en votre place ces personnes. » « Bonjour, Jean-Noël, » dit Madame Mourier. « Vous ne vous attendiez pas à me voir ?»« En effet, je ne m'y attendais pas. » »« C'est que nous avons, Madame Ettlinger et moi, de petits secrets, n'est-ce pas, madame ?» Annie regarda son beau-fils en souriant. Les liens qui les unissaient étaient suffisamment anciens pour qu'ils se comprissent sans parler. Non, il n'y a pas de secret, Madame Mourier plaisante, lut Jean-Noël dans les yeux de sa belle-mère. Il y a simplement, mon cher enfant, dit Annie, que ta mère doit venir tout à l'heure et que Madame Mourier a l'extrême bonté de ne pas vouloir me laisser seule aux prises avec elle. Je ne sais comment la remercier, car sans elle, je crois, j'aurais déjà quitté Paris. C'est la moindre des choses, observa Laure. Madame Mourier avait déjà perdu cette discrétion qu'elle avait eue en arrivant. Comme une garde-malade qui vient chez vous pour la première fois et qui demande, à peine arrivée, à connaître les êtres, se change, prie qu'on la conduise dans un cabinet de toilette, elle allait et venait dans l'atelier, examinait tout avec curiosité, jetait même parfois un coup d'œil derrière le paravent, sur ce coin qu'Annie avait aménagé en cuisine. Elle ne semblait même plus se souvenir de l'amour qu'elle avait eu pour Jean-Noël. Le ton familier qu'elle prenait dès qu'elle lui parlait, ainsi que le regard malicieux qu'elle posait sur lui, étaient ceux d'une femme d'un certain âge pour un homme qui lui aurait fait jadis la cour, auquel elle se serait toujours refusée et qui, aujourd'hui, aurait épousé une jeune fille innocente. Une demi-heure s'était écoulée depuis l'arrivée de Madame Ettlinger et de Laure lorsqu'on frappa. « Ce sont certainement eux, » murmura Annie en regardant fixement le bas de la porte, comme si celle-ci, lorsqu'elle s'ouvrirait, livrerait passage à des êtres non seulement petits moralement, mais physiquement. « Ne soyez donc pas si émue, madame. Vous allez voir qu'il ne se passera absolument rien de désagréable. » Laure elle-même alla ouvrir. C'était en effet Ernestine Mercier et Émile. Sans attendre qu'on les invitât d'entrer, ils s'avancèrent dans l'atelier. « Bonjour, madame. Comment allez-vous » dit Laure. « Il y a longtemps que je n'ai eu le plaisir de vous voir. » Annie se tenait près de la fenêtre, toute droite, comme si, occupée à regarder dehors au moment où on avait frappé, elle n'avait pas jugé nécessaire de se déranger. Jusqu'à cette dernière minute, à cause de Madame Mourier, elle n'avait pas songé à ce que cette visite pourrait avoir de pénible. Jean-Noël, comme un acteur qui n'a pas la parole et qui doit cependant rester en scène, regardait Laure et Madame Mercier d'une certaine distance. Mais il ne les voyait pas. Quelques instants après l'arrivée de sa mère et de son frère, il s'était souvenu de la citation qu'il avait reçue la veille et depuis, il ne faisait qu'y songer. Quant à Madame Mercier, elle avait tout de suite deviné les raisons de la présence de Laure. Sans répondre à celle-ci, elle s'approcha de Madame Ettlinger. « Si vous croyez ce que je ne vous dirai pas ce que je pense parce qu'il y a du monde, vous vous trompez. » Sans se retourner, Annie murmura. « Je n'ai rien à vous dire. Laissez-moi. Je suis ici, chez moi. » Madame Mourier s'interposa. « Allons, allons, Madame Mercier, n'abusez pas de la bonté de Madame Ettlinger. » Émile, à ce moment, se porta au secours de sa mère. « Ce n'est pas vous que nous sommes venus voir. » Annie s'était réfugiée au fond de l'atelier. Elle devait faire un effort pour ne pas laisser paraître sa colère. Bien que tout se passât, comme il lui eût été facile de le prévoir, cette scène l'humiliait. Non, elle ne pouvait plus supporter ces éternelles menaces. Il fallait en finir une fois pour toutes. Oubliant la résolution qu'elle avait prise de ne pas adresser la parole à Madame Mercier, elle s'avança vers celle-ci. « Je vous demande de vous retirer, madame. Vous n'avez absolument rien à faire ici. »« Nous n'avons pas peur de vous, » répondit Émile. Madame Ettlinger ferma et ouvrit ses mains à différentes reprises. Elle s'adressa brusquement à Laure. « Je vous en prie, madame, faites que cela cesse. » Laure s'interposa encore une fois. C'était elle qui avait conseillé à Madame Ettlinger d'accepter cette entrevue. Elle ne voulait pas qu'on pût le lui reprocher. « Il faut vous en aller, madame, » fit-elle avec douceur. « Nous n'avons pas affaire à vous, » cria Ernestine Mercier. « Faites attention à ce que vous dites. Je n'ai pas les mêmes raisons que Madame Ettlinger d'être patiente. » Ça avait été sur un ton teinté de vulgarité que Laure avait prononcé ses dernières paroles, car ce n'était plus en amie d'amis qu'elle avait parlé, mais d'égal à égal, un peu comme si, lassée de prendre Madame Mercier par les bons sentiments, elle voulait montrer que s'il fallait crier, elle savait le faire. Mais ni Émile ni sa mère n'obéirent. Une scène confuse eut lieu qui dura plusieurs minutes. Madame Ettlinger s'était accoudée sur le balcon de bois, les mains sur ses oreilles, et elle tournait le dos à tout le monde. Comme s'il s'agissait d'exécuter les ordres d'un chef qui est parti et qui, lorsqu'il reviendra, tient à ce que tout soit terminé, Laure était sans la moindre pitié. À chaque parole de Madame Mercier ou de son fils, elle répondait inlassablement qu'elle n'avait pas le temps d'entamer une discussion, qu'il fallait partir et ne jamais revenir. Finalement, Émile et sa mère se retirèrent, non sans avoir proféré des insultes à l'adresse d'Annie, insultes qui, malgré les efforts que celle-ci avait faits pour se boucher les oreilles, avaient glissé entre ses doigts comme de l'eau. Lorsque Madame Ettlinger se retourna, on eût dit une autre femme. À force d'avoir pressé ses oreilles et ses tempes, elle s'était fait des marques. Les coins de ses yeux étaient humides. Son visage, fatigué, déformé, comme un masque auquel on a touché avant qu'il soit sec. Elle se tenait si droite qu'on ne pouvait croire que c'était elle dont on avait vu le dos voûté il y avait un instant. « Ils ne reviendront plus, » dit Madame Mourier, surprise de l'effet que cette scène avait causé sur Madame Ettlinger. Elle avait cru qu'Annie n'était que maladroite, que comme la plupart des gens de son milieu, elle était sans défense devant la méchanceté. Elle avait voulu la prendre sous sa protection, lui montrer que ces femmes, dont on dit avec une pointe de mépris qu'elles n'ont pas froid aux yeux, sont utiles en certaines circonstances. « Laissez-moi faire !» avait-elle dit, avec cette fierté qu'on éprouve à avoir les pieds sur la terre, à être capable de lutter avec les plus habiles et les plus malins, mais en laissant entendre que la confiance qu'elle réclamait, elle n'en avait besoin que pour un instant, les qualités d'homme qu'elle se vantait de posséder ne devant pas tarder à céder la place à d'autres, plus appropriées à une jolie femme. Aussi était-elle surprise de constater qu'Annie, au lieu de lui témoigner de la reconnaissance, ne la regardait même pas. Elle sentit qu'un incident qu'elle n'avait pas remarqué s'était produit. Madame Ettlinger ne répondit pas. Elle s'approcha de son beau-fils. « Veux-tu me faire plaisir, Jean-Noël ? Prépare le thé. Je suis très fatiguée. » Je vais le faire si vous voulez, interrompit Laure. Non, non, ce n'est pas la peine. Jean-Noël le fera. Voulez-vous ce fauteuil ? Continua Laure, qui ne savait comment se rendre utile. Laissez-moi ! Laissez-moi ! Annie ne pouvait plus supporter Madame Mourier. Quand elle avait reçu la lettre d'Ernestine Mercier, sa première pensée avait été de quitter Paris. Mais à la réflexion, il lui était apparu que ce geste eût été interprété comme une capitulation et qu'à son retour, elle n'eût plus eu un instant de répit. Elle avait alors songé à demander conseil à Laure. C'était ce qu'elle se reprochait. À une femme comme Madame Mercier, on ne pouvait répondre que par du mépris, de l'indifférence, sinon on se mettait à son niveau. Aussi gardait-elle rancune à Laure de s'être offerte à arranger les choses, de l'avoir persuadée que grâce à elle, elle serait débarrassée à tout jamais de Madame Mercier, et de l'avoir amenée ainsi à assister à une scène aussi pénible que celle qui venait de se dérouler dans son atelier. « Tu ne prépares pas le thé ? » demanda-t-elle à son beau-fils qui venait de s'asseoir à son côté. « Madame Mourier veut le faire. » Annie regarda Jean-Noël affectueusement, puis, se soulevant, elle chercha Laure des yeux. Lorsqu'elle se fut rassise, elle prit la main de Jean-Noël, attira le jeune homme vers elle. Sans lever les yeux, elle murmura « Cette femme est odieuse !» Puis elle le repoussa, comme si elle venait de lui confier un secret et qu'il fallait paraître ne plus se connaître. Cette simple confidence plongea Jean-Noël dans la joie. Durant la visite de sa mère, il avait eu le sentiment qu'il était perdu. Au milieu des éclats de voix, cependant que sa belle-mère, la seule personne en qui il espérait un appui, lui tournait le dos, il lui était apparu que jamais il n'aurait le courage de parler de la citation qu'il avait reçue, qu'il allait être poursuivi, qu'Annie l'apprendrait, qu'elle ne voudrait plus le voir. Aussi, en cet instant, en la voyant faire sa complice, en sentant qu'elle le tenait pour innocent de tout ce qui était arrivé, faillit-il tout lui avouer. Mais n'eût-ce pas été mal remerciée, celle qui lui donnait une telle preuve d'affection ? Ne valait-il pas mieux attendre un peu ? Ce ne fut que le lendemain que Jean-Noël révéla à sa belle-mère qu'il avait été condamné à une pension mensuelle de 2 000 francs, qu'il y avait 4 mois qu'il ne l'avait pas versée, que Marguerite était décidée à porter plainte contre lui, puisqu'elle le faisait citer en justice de paix. La veille, à plusieurs reprises, il avait malgré tout voulu parler. Mais Madame Mourier à peine partie, Annie s'était abandonnée à sa colère. Personne n'avait trouvé grâce à ses yeux, sauf Jean-Noël. La raison de cette exception inattendue provenait de ce que Madame Etzlinger, ayant senti qu'elle avait été injuste envers Laure, celle-ci n'ayant eu que le tort de chercher à lui plaire, avait essayé de se donner l'illusion de ne pas l'être envers tout le monde. L'après-midi, elle avait pris la décision exceptionnelle de ne pas travailler. « Nous allons aller au cinéma », avait-elle dit à son beau-fils. Aussi s'était-il encore tu. Le lendemain donc, comme s'il venait seulement de recevoir la citation, afin que sa belle-mère, au souvenir du silence qu'il avait observé, ne le taxât pas d'hypocrisie, il osa dévoiler ses secrets. Madame Etzlinger était en train de décaper une toile. Un peu avant que Jean-Noël fût descendu, c'est-à-dire vers 8h30, elle avait été retenir un modèle pour l'après-midi. La visite de Madame Mercier lui avait ôté l'envie de travailler. Pour cette raison justement, car rien ne la mettait plus hors d'elle que d'être obligée de négliger sa peinture à cause d'une préoccupation de ce genre, elle avait décidé qu'elle commencerait une nouvelle toile. Elle était donc occupée à décaper, moins par souci d'économie que pour connaître de son art non seulement les joies, mais les petits ennuis matériels. Elle s'interrompit brusquement, regarda son beau-fils avec une fixité telle qu'il baissa la tête. « Qu'est-ce que tu dis ?» Jean-Noël répéta les mêmes paroles sans y changer un mot. Il ne se rendait pas compte que de les savoir ainsi par cœur donnait quelque chose de prémédité à son aveu qui ne pouvait qu'indisposer davantage Annie. Elle ne répondit pas et elle reprit son travail. Veux-tu que je le fasse ? Demanda Jean-Noël, quoiqu'il sût que sa belle-mère détestait qu'on s'offrît à se substituer à elle. Non, merci. Elle continua à décaper la toile comme si rien ne s'était passé. Lorsqu'elle eut terminé, elle demanda à Jean Noël, qui n'avait pas perdu un de ses gestes, ce qu'il avait à faire après le déjeuner. Il avait tellement l'habitude de paraître réfléchir quand sa belle-mère lui posait une question qu'il garda le silence. Finalement, il répondit qu'il croyait n'avoir rien de particulier à faire. « Eh bien, nous passerons l'après-midi ensemble, » dit Madame Metzlinger avec une douceur imprévue. « Je voulais travailler, mais j'ai changé d'avis. » À midi, ils allèrent déjeuner rue Campagne Première. Annie montra une telle bonne humeur que Jean-Noël, au lieu de s'en réjouir, soupçonna sa belle-mère de ne l'avoir pas écoutée. Elle ne lui avait demandé aucune précision. Il ne lui eut rien dit qu'elle n'eût pas été différente. Il se prit alors à craindre d'être obligé de refaire ce même aveu qui lui avait coûté tant d'efforts. Déjà, le soulagement qu'il avait éprouvé s'était évanoui. Il était aussi inquiet qu'avant d'avoir mis Annie au courant de ses soucis. Il savait qu'elle était capable de feindre de les ignorer, de lui répondre cependant, lorsqu'il les lui rappellerait, qu'elle l'avait très bien compris la première fois, sans pour cela faire quoi que ce fût pour lui. Après le déjeuner, ils rentrèrent à l'atelier pour y prendre le thé, celui que l'on servait dans les restaurants et les cafés étant toujours fait, comme disait Annie, dans les mêmes théières que le tilleul et la camomille et ayant le goût de ses tisanes. Ensuite, bien qu'elle eût affirmé qu'elle ne travaillerait pas, elle peignit un fond à la toile qu'elle avait décapée. Jean-Noël, qui savait que sa belle-mère avait horreur que, sous prétexte qu'on avait une heure creuse, on ne fit rien, prit un livre de droit et s'imposa d'en copier des passages. Un peu pour montrer que, quand on travaille, le temps passe sans qu'on s'en aperçoive, Madame Metzlinger ne s'arrêta qu'à 4 heures. On reprit du thé. Puis elle dit à son beau-fils qu'elle avait quelques courses à faire. Elle serait de retour à 6 heures. Jean-Noël n'avait qu'à terminer, en l'attendant, le travail qu'il avait commencé. « Tu as peut-être oublié que c'est pour demain que je suis convoqué. » dit-il de la voix tremblante qu'il avait eue le matin. « Non, je n'ai pas oublié. » Jean-Noël, qui ne savait comment interpréter l'attitude de sa belle-mère et qui était en proie à une grande inquiétude, attendit le retour d'Annie avec impatience. S'occupait-elle ou bien se désintéressait-elle de lui? Elle rentra à 7 heures. « Tu as bien travaillé ? » demanda-t-elle à Jean-Noël. L'égalité d'humeur d'Annie lui sembla de mauvais augure. Il ne s'expliquait pas pourquoi la perspective qu'il fut cité en justice ne faisait pas plus d'effet sur sa belle-mère. De nouveau, il se demanda si vraiment elle avait compris ce qu'il lui avait dit. « J'ai assez bien travaillé, » répondit-il. Ils allèrent dîner à la crèmerie où ils avaient déjeuné. Après le repas, Madame Metzlinger demanda à la servante, en regardant attentivement l'addition, ce qu'elle ne faisait jamais, si rien n'avait été omis. Puis ils traversèrent la place de l'Observatoire et descendirent le boulevard Saint-Michel. La soirée était douce, mais déjà automnale. Elle ressemblait à ces soirées de Nice, au cours desquelles Jean Melchior avait tant aimé à sortir avec Annie et, parfois, avec son fils. Des lumières s'allumaient avant la nuit. Les marronniers du boulevard avaient encore leurs feuilles. C'étaient les derniers jours où elles tombaient isolément. On sentait que l'instant était proche où elles allaient s'éparpiller. Jean-Noël songeait à son enfance, car il était incapable de jouir d'un aspect de la vie sans le rapprocher de ceux qu'il avait émus jadis. « On se croirait à Nice, » murmura-t-il. « Je ne trouve pas, » répondit Annie pour éviter tout attendrissement. Une heure plus tard, ils étaient de retour rue Boissonnade. Jusqu'à minuit, ils lurent et conversèrent, mais sans qu'il fût une seule fois question de la fameuse citation en justice. Puis Jean-Noël monta se coucher. Il s'endormit tard. Ce ne fut qu'à 9 heures qu'il se réveilla le lendemain matin. Tout de suite, il pensa à la citation. Pourquoi Annie n'y avait-elle fait aucune allusion? Serait-il obligé tout à l'heure d'en reparler? Avec la même anxiété qu'il avait eue la veille, il se rendit à l'atelier. Un morceau de papier, sur lequel Annie avait écrit « Prends la clé chez la concierge », était épinglé contre la porte. Jean-Noël éprouva un soulagement. Ce papier lui rappelait tant d'autres papiers semblables qui, chaque fois, lui avaient causé la petite joie de n'être pas oublié. Il fit ce que sa belle-mère lui ordonnait. mais quand il entra dans l'atelier, son attention fut tout de suite attirée par une lettre posée en évidence sur le bureau. Il l'ouvrit et lut ce qui suit. « Mon cher Jean Noël, j'ai voulu tenter une expérience. J'aurais dû prévoir qu'elle échouerait. Mais laissons cela, c'est déjà le passé. Parlons plutôt de toi. Si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, ta première femme te réclame une somme de 6 000 francs. Aujourd'hui même, je prierai mon frère de te faire parvenir cette somme. Les mensualités suivantes, il les versera directement à Marguerite ou à son homme d'affaires. Ce sera plus simple. J'ai décidé d'autre part de te faire une pension pendant 1 an. Comme je ne me rends pas compte de ce dont un jeune homme a besoin pour vivre et que j'ai horreur de parler argent, Henri et toi, vous vous entendrez sur le montant. Quant à mon atelier, tu peux le garder si cela te fait plaisir. Pour le moment, je ne veux plus l'habiter. Sinon, je te demanderai de faire transporter avenue de Malakoff mes peintures et les objets qui me sont personnels. Ce qui restera, tu n'auras qu'à le donner aux concierges qui sont de braves gens. Je te quitte. Ne t'étonne pas si je ne te donne pas de conseils. Tu sais, comme moi, que c'est beaucoup plus sage quand on tient à l'affection de quelqu'un. Je vais sans doute retourner en Italie. Il faut que je travaille. J'ai déjà perdu trop d'années. Surtout, tiens-moi au courant de ce que tu fais. Tu n'auras qu'à m'écrire avenue de Malakoff, on me fera suivre tes lettres. Car je suis impatiente de savoir comment tu useras de ta liberté. Je sens que l'année qui vient sera décisive dans ta vie. Tu es à un carrefour. Mon cher enfant, je souhaite de toutes mes forces que tu prennes la meilleure route. »